auquel un guide pourvu d'un mégaphone racontait le miracle de Guadalupe dans leur langue. Lupe était intriguée par les masques chirurgicaux des Japonais. Elle se figurait qu'ils souffraient d'une terrible maladie et qu'ils étaient venus au sanctuaire pour implorer leur guérison. « Ils sont pas contagieux ?» s'enquit-elle. « Combien de personnes ils ont contaminées depuis leur départ du Japon ?» La traduction de Juan Diego et l'explication d'Edward Bancho se perdirent dans le brouhaha de la foule. Lupe avait-elle saisi la propension des Japonais à se protéger de l'air vicié et des risques d'infection ? Circonstance aggravante, les touristes et les pèlerins qui avaient entendu le son de sa voix poussaient eux aussi des cris de ferveur mystique. L'un d'eux l'avait montré du doigt et clamait qu'elle parlait en langue. Elle était furieuse d'être prise pour une enfant messianique proférant d'inintelligibles sentences extatiques. On célébrait la messe dans l'église. Mais la cohue vociférante qui se ruait à l'intérieur n'avait pas le recueillement de rigueur avec cette armée de bonnes sœurs et d'enfants des écoles, de moines flagellants et de businessmen encordés qui avaient remis leurs bandeaux au risque de se casser la figure dans l'escalier. Leurs pantalons étaient déjà déchirés au niveau des genoux et deux ou trois d'entre eux boitaient. Juan Diego était loin d'être le seul infirme. Ils étaient tous là. Les mutilés, les amputés, les sourds, les aveugles, les nécessiteux, tous espérant la guérison miraculeuse, parmi les touristes anonymes et les Japonais en voyage de noces avec leurs masques chirurgicaux. Au seuil du sanctuaire, les enfants entendirent la jolie journaliste déclarer « Un chercheur allemand a analysé les fibres de la tunique. Il a découvert que les couleurs imprimées n'étaient ni d'origine animale, ni végétale, ni minérale. » « Qu'est-ce que les Allemands viennent faire là-dedans » demanda Lupe. « Soit Guadalupe est un miracle, soit elle l'est pas. Rien à voir avec la tunique. » Ce qu'on appelle la basilique de Guadalupe se compose d'un ensemble d'églises, de chapelles et de lieux saints regroupés sur un flanc de la colline de Tepeyac, où l'on dit que le miracle a eu lieu. Edward Bancho et les enfants ne virent finalement que la chapelle du Petit Puits, où la sainte repose dans son cercueil de verre, « El Cerrito de las Rosas ». Ils n'allèrent pas voir la tunique dans son cadre de verre sécurisé. Il est vrai qu'à l'intérieur du Cerrito, la Vierge de Guadalupe n'était pas reléguée dans une chapelle latérale, elle trônait dans le cœur même de l'église. On lui avait donné la vedette, la belle affaire. On l'avait assimilée à la Vierge Marie en une seule et même figure. Et le tour de passe-passe catholique avait fait du sanctuaire une véritable ménagerie. Les cinglés en tout genre y étaient bien plus nombreux que les vrais pèlerins qui essayaient vainement de suivre la messe. Les prêtres officiaient machinalement. Les mégaphones étaient interdits dans l'enceinte de l'église. Mais la guide japonaise braillait la suite de son commentaire à l'intention des jeunes époux masqués. Les businessmen encordés, de nouveau débarrassés de leurs bandeaux, regardaient sans la voir la Vierge brune, à l'instar de Juan Diego, les yeux ouverts au milieu de ses rêves. Ne touche pas les cendres, l'avisa Lupe, mais Juan Diego tenait le couvercle de la boîte bien fermé. Pas un grain ne doit être dispersé ici, ajouta-t-elle. Je sais. Notre mère préférerait brûler en enfer plutôt que de voir ses cendres dispersées dans ce foutoir. El Gringo Bueno aurait refusé de reposer dans la petite colline. Il était si beau quand il dormait, dit-elle. Juan Diego n'avait pas manqué de remarquer qu'elle n'appelait plus le lieu l'église des roses, mais la petite colline. Pour elle, El Cerrito avait perdu toute connotation sacrée. Pas besoin de traduire, dit Seigneur Eduardo aux enfants. Cette église n'est en rien un lieu saint. C'est une imposture, c'est du toc, le contraire de ce qu'elle avait vocation à être. Vocation à être, répéta Juan Diego. « Ni animal, ni végétal, ni minéral, comme a dit l'Allemand !» s'écria Lupe. Juan Diego devait-il traduire cette phrase à Edward Bancho? Elle lui semblait une vérité dérangeante. « Quel Allemand ?» demanda l'homme de l'Iowa, tandis qu'ils entamaient la descente des marches. Des années plus tard, il devait dire à Juan Diego « Je me vois quittant la colline des roses. » Je ressens encore la désillusion, le désenchantement qui m'avait submergé dans cet escalier. Je n'en finis pas de descendre. En chemin, De nouveaux pèlerins ruisselants de sueur les bousculèrent en grimpant vers le site du miracle. Juan Diego marcha sur un objet souple, qui crissa cependant sous son pied. Il s'arrêta pour le regarder, puis il le ramassa. La statuette était un peu plus grande que celle du Christ en croix qui se vendait un peu partout alentour, et pas plus épaisse que la figurine de Coatlicuélope, elle aussi en vente dans tout le site de la vaste basilica de Nuestra Señora de Guadalupe. Elle représentait la sainte elle-même, le corps passif et soumis, les yeux baissés, la poitrine inexistante, le léger enflement de l'abdomen. Les humbles origines de la Vierge y transparaissaient. Elle aurait parlé le Nahuatl si elle avait pu parler. Quelqu'un a dû la jeter, dit Lupe à Juan Diego. Quelqu'un d'aussi déçu que nous. Elle fourra la figurine en ébonite dans sa poche. Elle n'était pas aussi volumineuse que le nez de la Vierge monstre, mais elle y faisait quand même une bosse. Au bas de l'escalier, ils passèrent sous les fourches codines de vendeurs de casse-croûte et de boissons. Un petit groupe de religieuses quêtait pour les pauvres de leur paroisse. Elles vendaient des cartes postales. Edward Bancho en acheta une. Juan Diego se demanda s'il pensait encore à la carte postale de Flore avec le poney. Mais celle-ci représentait seulement Guadalupe, la Virgen Morena, gisant dans son cercueil de verre, au fond de la chapelle du Petit Puits. En souvenir, s'excusa l'homme de l'Iowa en désignant la carte. Lupe jeta un simple coup d'œil sur la photo de la Vierge brune, puis elle détourna le regard.
« Je suis tellement furieuse que je préférerais la voir avec une bite de poney dans la bouche, » dit-elle. « Morte, quoi, mais avec la bite du poney. »
Elle dormait la tête sur les genoux de Bancho la fois où il avait raconté l'histoire de cette monstrueuse carte postale. Mais n'était-elle pas extra-lucide jusque dans son sommeil? « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Edward Bancho. Juan Diego cherchait la meilleure façon de s'échapper de l'immense place d'aller et de trouver la station de taxi.
Elle dit qu'elle est contente que Guadalupe soit morte. C'est ce qui lui plaît le plus sur la carte postale.
Tu m'as pas parlé du nouveau numéro de Chien Savant ? Lupe s'interrompit, comme la dernière fois, en attendant que son frère rattrape sa pensée. Mais c'était peine perdue.
Pour l'instant, tu vois, j'essaye de nous sortir de là, répondit-il d'un ton irrité.
Elle tapota la bosse à travers la poche où il avait mis la figurine de Guadalupe.
« Ne lui demande surtout rien à celle-là, » lui conseilla-t-elle.
Derrière chaque voyage, il y a une raison, devait un jour écrire Juan Diego. 40 ans s'étaient écoulés depuis le périple des gosses de la décharge au sanctuaire de Guadalupe, mais lui non plus n'en finissait pas de descendre.
Chapitre 24. La pauvre Leslie. Je passe mon temps à rencontrer des gens dans les aéroports. Ainsi débutait bien innocemment le fax de Dorothy à Juan Diego. Et bon sang, nul doute qu'elle avait besoin d'un coup de main, cette jeune maman. Pas de mari, le sien l'avait déjà largué, et il n'était même pas parti que la nounou les avait laissés tomber, elle et ses gosses, volatilisés dans l'aéroport. Pour Juan Diego qui avait lu et relu le fax, le sort de cette infortunée jeune maman avait des airs de déjà-vu. Un écrivain comme lui pressentait les tenants et les aboutissants de cette histoire. Il devinait le non-dit, la façon dont une chose mène à une autre, selon Dorothy, et la raison pour laquelle elle avait accompagné la pauvre Leslie et ses enfants à l'hôtel El Nido. Cette pauvre Leslie, ce nom-là et son épithète, Juan Diego les avait déjà entendus quelque part. « Mais oui, bien sûr. Pas besoin d'en lire davantage. Il se souvenait très bien de ce qu'il avait appris sur la pauvre Leslie et par qui. »«
Ne t'en fais pas, chérie. Elle n'est pas écrivaine, » avait écrit Dorothy. « Elle est étudiante en littérature. Elle s'essaye à l'écriture. D'ailleurs, elle connaît ton ami Clark. Elle a fréquenté un de ses ateliers. »«
Mais oui. » C'était bien d'elle qu'il s'agissait. Elle avait rencontré Clark avant même de participer à son atelier d'écriture dans une vente de charité, une de leurs opérations catholiques favorites. Son mari venait de la quitter. Elle avait deux petits garçons turbulents sur les bras.
Elle était persuadée que les déceptions accumulées dans sa jeune vie pouvaient constituer une trame romanesque.